Bienvenue à cette première saison du podcast La Jeune Chambre en collaboration avec CPA Mauricie Centre du Québec et enregistré au hublot de la CDEVR. On espère que vous trouverez en nos épisodes une foule d'infos pertinentes dans votre quotidien d'entrepreneur. Moi, c'est Marc Pascal et je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on est avec Alex Pépin, associé chez DGK. On va parler en fait de l'importance d'un site web performant. Alex, on jasait un petit peu avant l'entrevue, puis tu m'expliquais que le site web aujourd'hui a une force qui est beaucoup plus grande qu'auparavant.
Oui, en vrai, je te dirais c'est que ça a changé beaucoup en 20 ans. On a passé peut-être d'une simple présence sur Internet, à avoir nos numéros de téléphone, à essayer d'être rejoignable, à le monde magasine beaucoup, le monde a plus de questions, le monde a accès à l'information. Ça tombe un petit peu la plateforme centrale où ce que la réponse à toutes les questions devrait être là.
Donc, les entreprises qui sont seulement sur les médias sociaux, ça se trouve peut-être à être une erreur, en fait, maintenant. Les médias sociaux se suffisent pas à eux-mêmes.
Je dirais que non, ça suffit pas, mais oui, c'est un excellent move d'y aller. Donc, il faut avoir une présence sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est un élément marketing qui doit rediriger vers un site web. Facebook n'aura pas la réponse à toutes les questions sur vos services, vos produits. Par contre, va être un teaser, va être un petit accroche pour nous lancer, pour nous teaser et nous renvoyer vers un site web où il y aura réponse à toutes nos questions. C'est un petit peu comme ça, il faut le voir. Il joue le même rôle qu'une infolette, il joue le même rôle que ce soit TikTok ou Facebook. On clique sur quelque chose qui nous envoie directement vers un site web pour consommer plus d'informations sur le sujet qu'on est intéressé.
C'est quoi un peu le genre d'informations qui devrait être primordial qu'on devrait retrouver sur un site?
Si je pourrais donner un petit conseil, les questions, c'est pas sûr que le propriétaire de l'entreprise a dans sa tête. Nous autres, on connaît tout. Trop notre domaine, trop nos produits. On appelle ça un petit peu, ça va croiser l'expérience utilisateur. Il faut s'informer sur nos vrais clients, ils ont quoi comme question envers nos produits, nos services. C'est un petit peu plate, mais c'est souvent un petit peu plus simple, un petit peu plus niaiseux qu'on peut le penser. Par contre, c'est de l'information tellement importante que le monde ne sait pas comment faire puis par où partir avec nos services, nos produits. Il faut les amener avec nous autres puis les inciter à nous contacter.
Et on parlait de site web qui est performant. Comment on fait pour savoir si son site est performant? Est-ce qu'il y a des outils pour calculer un peu l'efficacité communicationnelle de son site?
Il y a énormément d'outils qu'on peut calculer. Le but, c'est de vouloir calculer. Ce que le monde ne fait pas en ce moment, c'est juste qu'on laisse rouler les choses, puis on ne sait pas ça marche-tu, ça marche-tu pas. Ça prend des indicateurs de performance, comme on pourrait dire un petit KPI. Simple, le monde se connaît souvent le nombre de visites d'un site web par mois. On ne veut pas savoir le nombre de personnes qui sont venues, mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur notre site web? Est-ce que c'était ma tante, ou est-ce que c'était vraiment un futur client qui n'a juste pas été capable de rentrer en contact, mais qu'on pourrait closer? Il faut essayer de s'informer un petit peu plus. Donc, l'outil principal, je te dirais complètement gratuit, va être Google Analytics. Puis peut-être après ça, d'essayer de bien comprendre les statistiques et de faire quelque chose avec ça. Mais comme on dit souvent à l'interne, on va mettre des objectifs, on va mettre des statistiques, mais il faut que ça parle à quelqu'un. Le monde n'est pas encore assez habitué de jouer avec ça et de réagir aux statistiques. Pourtant, si on regarde autour de nous autres, dans les entreprises, le monde avait des vendeurs dans la vie. Puis le monde, quand il y avait un représentant, un vendeur, il y avait un directeur des ventes qui, à chaque jour, le challengeait. T'as-tu une belle journée? Ça a-tu bien été? T'as-tu vendu quelque chose? Qu'est-ce qu'il t'a dit le client? Puis on le rappelle-tu dans un mois? Puis on se revient. Un site web, c'est un représentant. C'est ton plus gros représentant de compagnie, en vrai. Puis pourquoi qu'à lui, on y pose pas de questions? Fait que peut-être juste de commencer avec ce questionnement-là, puis ça va nous amener un petit peu à vouloir en savoir plus, puis à commencer à penser, ça serait quoi une action importante que le monde a faite sur notre site web. Je te cacherai pas, un formulaire de contact serait peut-être la meilleure chose où ce que tu le sais que la personne a voulu rentrer en contact avec toi. Tu es capable de savoir après ça est-ce que tu l'as closé comme client. Après ça, regardons le nombre de formulaires de contact que tu as par mois. Ça s'en va-tu en montant, en descendant? Pose-toi des questions, ça s'en va en baissant. Petit peu cet exemple-là que je te dirais.
Donc, si le site agit un peu comme un représentant, c'est donc important que quand on conçoit notre site, qu'on sache vraiment clairement à qui on s'adresse, j'imagine.
Exactement. C'est dans les choses les plus importantes et à qui on s'adresse et quelles sont les questions qu'il se pose. Pourquoi? Parce que tu veux savoir si tu vends des automobiles, c'est-tu la couleur la plus importante ou c'est le kilomètre au 100 ou c'est qu'il soit juste électrique. en ce moment, ton client, il faut que tu l'envoies dans la bonne direction puis que tu aies les réponses à ses questions à lui.
Puis j'imagine que quand on est quand on cherche l'information sur un site Internet, il peut y arriver certaines frustrations qui font en sorte qu'on quitte immédiatement. C'est quoi le genre de frustration qu'on cherche à éviter pour notre utilisateur?
De un, je te dirais peut-être le perdre. Je vais te donner un exemple. Souvent, les plomberies aujourd'hui vont faire, vont installer des thermopompes comme ils vont réparer des toilettes, comme ils vont te faire une maison neuve. Si tu cliques sur « réparer ma toilette » parce que ta toilette a brisé, tu as tapé ça sur Google, je clique, j'arrive sur une page de thermopompe. Bien ici, on a eu une erreur. Pourtant, ils m'offrent le bon service. Mais en une seconde, j'ai une micro-frustration. Et aujourd'hui, les secondes sur Internet sont comptées. Donc, ma mère a fait comme « pourquoi une thermopompe et pourquoi c'est pas des toilettes? » Je repars de là. Et je vais aller voir qui? Ben le petit lien en dessous qui est sûrement ton compétiteur. Puis si lui, je clique sur la bonne chose et que j'arrive sur le bon service, et voilà, bing bang, l'expérience est meilleure, on se rapproche d'avoir un nouveau client.
Donc c'est vraiment de faciliter la navigation puis trouver facilement les infos qu'on cherche.
Exactement. Je pense que je te dirais que si je me fie aux statistiques que je vois en ce moment dans le domaine, les pages d'accueil sont de moins en moins vues sur les sites Internet. Juste parce que les réseaux sociaux vont diriger directement sur des produits. Le Google Ads va diriger directement sur des pages services précis. Donc, les pages d'accueil sont de moins en moins vues, la page d'accueil étant importante, mais quand on a plusieurs services, il faut que l'utilisateur se retrouve extrêmement facilement dans tout ça.
Mm-hmm. Tu parles de Google Ads. J'imagine que pour que sa publicité Google Ads soit efficace aussi, le site doit être bien construit pour justement éviter le genre de frustration dont tu parlais, que ça mène sur une page qui ne contient pas les informations qu'on cherche.
C'est exactement. Puis Google va t'aider au travers de tout ça si c'est toi qui l'ai fait toi-même. Google, il veut pas t'envoyer sur la page d'accueil, puis il va te le dire. C'est important, c'est intelligent. Puis je te dirais, le Google Ads, de un, il faut en faire, mais il faut en faire si le site web est capable de closer le deal. Parce que toi, tu le tises, ça te coûte quelque chose à chaque fois que quelqu'un clique. Bon, mais on essaye que le site web puisse closer. Je vais te donner un exemple. J'ai déjà eu un client qui, la journée qu'il a appris, c'était quoi du Google Ads? Il était comme, mets-en 5-10 000 par mois. Puis c'était comme, mon Dieu, tu veux donc bien en mettre, c'est correct, tu vas sortir, tu vas avoir des clics, on va attirer des nouveaux clients. Par contre, ton site web, très, très, très désuet. On les envoie dans un dead end, là. Ils vont rien faire après. Ils vont arriver sur le site web, puis ton chat, il meurt là. Fait que, conseil, excuse-moi, on va reculer en arrière avant de mettre 5 à 10 000 par mois en pub. On est mieux de bâtir un site web qui va recevoir la pub et qui va être capable de closer et nous donner des statistiques sur est-ce que mon site web me rapporte des nouveaux clients. Puis tout ça, bien, ça se branche ensemble. Je te ramène à Google Analytics. Tu vas être capable de passer par Google pour dire à ton site web, hey, ici, je mets un objectif. Chaque formulaire, moi, je pense que ça me rapporte 400 $ de profit net parce qu'après ça, j'y vends telle affaire. Tu es capable d'y mettre des objectifs et de surveiller tes événements, tes objectifs dans Google après.
Donc, un site web performant, c'est essentiel pour Google Ads.
C'est complètement essentiel. Je te dirais que c'est la somme des deux qui fait que tu vas finir par trouver que le numérique t'apporte de la business. Sinon, c'est là peut-être qu'un petit peu le monde se perd dans tout ça. Les efforts, il faut que ça s'aille tout attaché ensemble pour qu'au bout de ça, on ait des nouveaux clients. C'est là que je te ramène à l'indicateur de performance. Si tu ne sais pas s'il t'amène des nouveaux clients, ça se peut que tu penses que ton site web fait la job et que tu gaspilles des milliers de dollars par mois en Google Ads. Par contre, si on est capable de le prouver que ça le fait, tu vas peut-être vouloir en mettre plus puis en avoir encore plus. C'est la beauté du numérique, c'est les statistiques. On sait comment qu'on s'améliore, on sait comment qu'on peut s'améliorer.
Une dernière question pour toi, Alex. Tu prêches pour ta paroisse, c'est certain, mais considérant que les entreprises en démarrage n'ont pas toujours des milliers de dollars à investir pour faire un site web performant par une agence, est-ce que c'est possible d'arriver à faire seul quelque chose qui va être efficace?
Vraiment, je pense que vraiment, comme ma maman a fait le sien toute seule et je suis très fier de ce qu'elle a fait quand même. Par contre, il faut revenir un petit peu à un résumé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est pas toi le client. Peut-être de t'asseoir avec un ami qui comprend rien de ce que tu fais et les questions qu'il aurait à vouloir faire affaire avec ton service. On a besoin d'avoir les questions des clients pour ce que nous autres on pense. De deux, votre site web n'est pas informatif. C'est un représentant, donc il doit être capable de vendre un frigidaire s'il faut qu'il vende un frigidaire. Donc, essayez de peut-être même en rédaction, d'essayer d'être un vrai vendeur et non pas être un petit peu un ton platonique et on est meilleur que le voisin si on le croit. Mm-hmm. Fait que c'est un petit peu, je pense que tout le monde est capable d'arriver à faire son propre site web. La technologie est rendue quasiment extrêmement facile. Je pense que de un, on doit s'essayer si on est travailleur autonome. Puis de deux, je suis sûr que le succès peut suivre si on suit nos choses et qu'on a un désir d'amélioration.
Super. Un grand merci, Alex, pour ton temps.
Plus que plaisir.
Puis je remercie aussi Studio Le Pays pour l'enregistrement de cet épisode de podcast.